Alors, on continue avec la prochaine présentation qui est assurée par Éric Petit. Éric Petit, il est chercheur en écologie évolutive à l'INRA au sein de l'UMR écologie et santé des écosystèmes. Et je ne trouve pas ta présentation. Pardon. Celle-ci. Parfait. Donc voilà, je te laisse la parole.
Merci. Alors, je vais vous parler d'espèces migratrices et d'espèces invasives. Il y a une trentaine de personnes de 5 laboratoires différents qui travaillent sur la recolonisation de la cellule par les espèces migratrices, notamment, mais aussi sur le mouvement que ça a provoqué pour des espèces qui sont un peu moins désirées comme des espèces invasives. Alors, sur cette photo aérienne, vous devez repérer ici l'emprise spatiale de la retenue, surtout celle de Vezin ici, et puis ici la Roche-Quibois. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on va enlever les barrages? On va remettre en connectivité l'amont et l'aval, et puis on va transformer des habitats lentiques en habitats lotiques. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la distribution un petit peu des espèces? Donc, c'est assez classique. Vous avez, on va dire, coincé ici à l'aval des barrages. Vous avez les lamproies, vous avez l'anguille, vous avez le saumon, la truite de mer. Il y a aussi un peu de silure, hein, ça a été repéré sur des caméras acoustiques. Et ces espèces-là sont pour l'instant plutôt à l'aval des barrages. Alors le silure, on le retrouve aussi dans la retenue de Vezin, et en amont, on retrouve la truite, on retrouve deux espèces d'écrevisses, et puis la lamproie de plein air. Et les deux espèces d'écrevisses, c'est une espèce invasive, et puis une espèce autochtone, l'écrevisse à pattes blanches. Donc on va voir des changements ici de distribution qui vont être occasionnés par la levée des barrages. Donc les espèces migratrices vont recoloniser l'amont, évidemment. Et puis vous allez avoir aussi une modification de la distribution des espèces invasives. L'écrevisse invasive, elle est pour l'instant, c'est l'écrevisse signale qu'on a là-bas. Elle est pourtant pour l'instant cantonnée à l'amont. Elle va se diriger vers l'aval du bassin versant. Le silure, il a été pêché, on vous a dit 6,5 tonnes de silure pêché dans la retenue de Vezin, mais il est présent à l'aval, et c'est donc là qu'il va commencer à poser problème. Alors ces changements de distribution, qu'est-ce qu'ils vont occasionner aussi d'autres? Ils vont occasionner des changements d'interaction entre espèces. Alors, ici on parle d'études d'écologie, et l'écologie c'est la science des interactions entre êtres vivants leur milieu. Alors, si on se concentre ici sur quelques exemples, vous allez avoir des changements ou des occasions d'avoir des modifications de changements dans les réseaux trophiques, parce que vous allez avoir des espèces, l'anguille qui peut se mettre à consommer de l'écrevisse quand elle va la rencontrer. Vous allez avoir des changements dans les interactions entre espèces au niveau des potentiels fluidogènes. On va en reparler, par exemple, entre la lamproie fluviatile et puis la lamproie de plein air. Et puis, en aval, je vous ai parlé du silure. Un des problèmes qui peut se poser, c'est s'il se met à manger tous les migrateurs qui essaient de recoloniser vers l'amont. Donc, je vous le disais, des nouvelles distributions et des nouvelles interactions. Alors, je ne vais pas vous présenter ici de beaucoup de résultats des travaux. Je vais faire un focus sur 5 diapos. Vous allez voir, on a une diapo par travail qui a été réalisé, qui sont à la fois des développements méthodologiques et puis des questions qu'on se pose sur ces changements d'interaction entre espèces. Alors, notez que sur ce qui est plus distribution, vous entendrez parler encore de ces choses-là plus demain avec l'Observatoire. Et je me contente ici d'interactions d'autres types que l'interaction trophique, puisque la présentation qui suit, c'est celle de Jean-Marc Roussel, qui sera spécifique sur les azotrophiques. Alors, premier travail qui illustre un petit peu ce qui était fait jusqu'ici sur la cellule, c'est de mettre au point des méthodes qui permettent de détecter les saumons. Le saumon, on attend ce qui recolonise la cellule. Il va recoloniser la cellule, et au niveau de Ducé a été installée une caméra acoustique de type Dixon, avec laquelle il est possible de compter le nombre de saumons, que vous avez ici sur la figure, le nombre de saumons qui vont remonter à la cellule. Alors ici, on a des développements de deux types. Le premier, c'est sur mettre au point une méthode qui est efficace en termes aussi de temps de travail, c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a des gens qui travaillent au laboratoire, enfin chez nous, et puis au LETG, sur la reconnaissance automatique des saumons qui remontent la cellule. Et le deuxième développement, c'est que le couplage de deux différents types de caméras, de deux différents types de détection des saumons, permet de mesurer réellement des flux. Et donc, mesurer les flux, ça permettra de mieux gérer les populations de saumons à l'avenir. Alors, deuxième type d'illustration, je vous ai parlé des lamproies tout à l'heure. Vous avez à gauche ici, alors je ne sais pas si vous les connaissez bien, la lamproie fluviatile. C'est une espèce qui est migratrice, hein, qui va aller vivre une partie de son cycle en mer. Et vous avez beaucoup de flux de gènes entre différents bassins versants. Ce que vous avez ici verticalement, à gauche de la figure, ce mélange de bleu et d'orange, ça vous signifie que entre différents bassins versants, et bien finalement, les lamproies fluviatiles se ressemblent beaucoup. Sur les mêmes bassins versants, si vous montez un petit peu à l'amont et que vous échantillonnez cette fois les lamproies de plein air, vous voyez des couleurs qui sont très différentes parce que les lamproies de plein air sont très différentes d'un bassin versant à l'autre. Et pourtant, si on regarde sur chacun des bassins versants, notamment ça se voit au niveau de la diversité génétique, les lamproies de plein air qui sont complètement à l'amont ont moins de diversité génétique que les lamproies de plein air qui sont un petit peu plus en aval au contact des lamproies fluviatiles. Donc il y a des flux de gènes qui sont possibles ici. Donc ici, c'est des questions un petit peu de biologie évolutive, et notamment sur les questions de spéciation. Et dans la spéciation, qu'est-ce que c'est que la spéciation? C'est l'isolement de poules génétiques. Alors qu'est-ce qui est intéressant au niveau de la cellule? Eh bien, on a eu séparation de poules génétiques, lamproie de plein air, lamproie fluviatile, pendant 100 ans. En enlevant les barrages, on va remettre ces poules génétiques en commun, et on va pouvoir regarder si des barrières aux échanges ont pu se mettre en place, et notamment au laboratoire, c'est Guillaume Evano qui s'intéresse à ces questions, regarder au niveau génomique, dans quelle zone génomique se créent ces barrières au flux de gènes entre les espèces. Troisième type de travaux qui illustre ce qui a pu être fait ou ce qui sera fait sur la cellule, l'espèce d'écrevisse invasive qui concerne la cellule, essentiellement, il y en a trois en tout, hein, mais celle qui est la plus répandue, c'est l'écrevisse signale. Alors l'écrevisse signale a été introduite, c'est un élevage hein, qui était en amont sur le bassin versant. On a échantillonné des populations ici marquées en rouge pour les caractériser à la fois du point de vue morphologique et du point de vue génétique pour pouvoir à l'avenir, quand les populations vont commencer à se réétendre spatialement, caractériser les individus qui colonisent en premier. Regardez si morphologiquement, phénotypiquement ou génétiquement, ils sont particuliers par rapport aux populations qui sont déjà en place. Autre travail qui est intéressant ici, c'est on revient au saumon. Pour pouvoir gérer correctement les populations de saumon, hein, son cycle de vie est assez compliqué, il vit en rivière, il vit en mer aussi. Il faut savoir d'où viennent les colonisateurs. Et ici, pour le saumon, alors, on n'utilise pas la génétique, on utilise la microchimie, les otolithes. Hein, dans les otolithes, vous avez tout un tas de traceurs qui vont se fixer et qu'il est possible d'analyser. Et ce qui est intéressant ici, vous avez sur ce graphe tout un tas de traceurs qui ont été analysés, qui sont représentés en deux dimensions dans un plan factoriel. Et tous les points bleus, ce sont des juvéniles, donc des individus qui ont grandi dans des rivières différentes, qui sont ici matérialisés par des couleurs différentes. Et ce que vous avez ici, ce sont les quatre fleuves côtiers qui se jettent dans la baie du Mont-Saint-Michel, donc dans la même zone géographique. Et vous voyez qu'on peut caractériser ces différentes rivières ici sur ce plan factoriel. Alors comment est-ce qu'on peut savoir qui c'est qui va reconnaître les cellules? Et bien, ce que vous avez, les points rouges que vous avez en dessous ici, ce sont des individus qu'on a pu capturer au pied des barrages. Et vous voyez que ces individus, ben, certains se collent bien sous la signature microchimique de la cellule, mais d'autres se collent plutôt du côté du couesnon ou du côté de la sienne. Donc visiblement, les individus qui fréquentent la base du barrage ne viennent pas tous forcément de la cellule. Dernier exemple, pour pouvoir caractériser ces populations phénotypiquement, hein, pour comprendre un petit peu leur évolution dans la cellule, une fois qu'elles auront recolonisé, il faut avoir accès à leurs traits de vie. Hein, les histoires de vie de ces populations de migrateurs sont assez complexes. Et une des problématiques, c'est de pouvoir caractériser ces traits de vie sur des suivis longitudinaux, d'individus. Et sur les poissons, par exemple, un des traits qui est un peu compliqué à mesurer, c'est tout ce qui est lié à la reproduction. Donc fécondité, âge à la maturation, à la maturité. Et donc Marie Nevoux, au laboratoire, avec d'autres personnes du labo, ont développé une méthode non invasive dans laquelle les poissons, on va pouvoir caractériser leur état reproducteur à partir... Vous reconnaissez ça, non? Vous avez eu des enfants? C'est de l'échographie, voilà. Donc ça, c'est des travaux qui sont de développement, de mesures de trait de vie à partir d'échographie, de méthodes non invasives pour caractériser les populations de poissons. Alors évidemment, ici, pour l'instant, on est simplement sur le développement de méthodes, sur la bancarisation de données, d'échantillons, et le type de questions qui vont pouvoir être posées une fois que l'arasement des barrages sera terminé, que les populations auront vraiment commencé à bouger et à recoloniser. Ben, ce sont des questions de connaissance générale de ce qui se passe dans ce type de colonisation. Donc, quelles sont les espèces qui vont bénéficier le plus de l'arasement des barrages? Quelles sont les conséquences de cet arasement sur la structure démographique et génétique des populations qui recolonisent, des populations résidentes, ou quelles sont les conséquences de ces recolonisations sur la dynamique des traits des espèces. Et puis, il y a des questions locales, spécifiques, qui concernent la gestion de ces populations. Donc, notamment, vous l'avez compris, il y a des questions, que ce soit pour les poissons ou pour les écrevisses, espèces natives versus espèces invasives. Pour pouvoir gérer les populations, il faut savoir un petit peu quelle est leur emprise spatiale sur tout le cycle de vie, donc quelle est l'origine des colonisateurs. Et puis, quand on remet en contact des populations résidentes, par exemple de truites avec des populations de truites de mer, des lamproies de plein air avec des lamproies fluviatiles, quel est un petit peu le poids relatif que vont prendre ces différentes populations dans les populations qui vont s'installer définitivement dans ce bassin versant renouvelé. Voilà, je vous remercie pour votre attention.